par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Cheese 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun. Mais t'as fait le tour pas mal vite. Puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salon attachant, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Cheers 94.3.
Je suis seul dans mon sous-marin encore une fois. Je fixe tous les raccoins à la recherche de toi. Je suis en hauteur avec Dala. La libération, y a de la fumée dans l'air. Une aquarelle où tout le monde danse. Cactus, mer et reine partagent la même transe. Je te vois dans les fleurs du tapis.
Vendredi 30 juillet 2021, ici Alex Bergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de Cheese 94.3 à Québec et de CFAC 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine à nouveau. Les Jeux olympiques ont commencé, si vous ne l'aviez pas vu passer. Hein? En fait, c'est assez dur, il y a à peu près que ça à la télévision de toute façon, donc c'est assez dur à manquer. Au nombre global de médailles, le Canada est 11e présentement avec 3 médailles d'or, 3 d'argent et 5 de bronze pour un total de 11. C'est quand même bien après une semaine. Et si on va au nombre total de médailles, on tombe à la 12e position. puisqu'il y a deux classements aux Jeux olympiques. Le vrai classement et le classement par total de médailles. Donc, dépendamment celui qui avantage quel pays seront employés pour différentes raisons, si on se fie au total de médailles, présentement, c'est les États-Unis avec 41 devant la Chine à 40 et les représentants olympiques de la Russie à 34. Mais si on va au total de médailles d'or, qui normalement est le vrai classement, en première position, on retrouve la Chine avec 19, le Japon avec 17, les États-Unis avec 14 et les représentants russes à 10. Mais Canada, on est quand même dans la moyenne. Ben, on est à peu près au même stade, donc 11 médailles pour le nombre de médailles d'or et 12e position pour le nombre total. Voilà pour ça. Et c'est intéressant au niveau où il y a eu quand même des belles surprises aussi dans ces médailles-là. Il y a eu notamment, et ça a été peut-être l'espèce de pas de révélation, mais en tout cas, ça a été pour une fois seulement, c'est le cas de le dire, le représentant de la Lettonie. Non, c'est pas la Lettonie. C'était en natation. Normalement, on attendait à ce que ce soit un Américain qui monte sur le podium. Et que finalement... C'est-tu la Tunisie? Non. Finalement, il avait battu tout le monde. Évidemment, je trouverai pas le pays... Cette attente est bien involontaire. Bref, il y a des moments... la Tunisie, c'était si simple. La Tunisie, parce qu'ils ont gagné une médaille d'argent entre-temps, donc ça mélange un petit peu. Tunisie, qui ont eu une médaille d'or en natation, qui n'était pas attendue dans le couloir numéro 8 pour la natation, donc pas du tout prévu. Parce qu'il faut savoir justement comment que les gens sont placés dans la piscine, notamment pour la natation, c'est par qualification. Donc, la première position de qualification sera dans le centre de la piscine, couloir numéro 4. Et on y va graduellement de l'extérieur. Donc, numéro 3, numéro 5, numéro 2, numéro 6, etc., etc. Donc, dans le couloir numéro 1, en général, ça a fait un bon score, mais ça a terminé 7e, 8e, tout dépendamment. Donc, ça n'était pas... c'était pas prévu, entre guillemets. Mais finalement, ça donne des petites surprises comme ça. Et c'est ce qui fait en sorte que les Olympiques sont intéressantes à regarder au sens où, justement, de développer, ben en fait, de développer, d'avoir des surprises comme à la natation pour la Turquie. Ça veut quand même que les gens sont encore plus heureux de gagner, je dirais ça comme ça. Parce qu'il y a eu un reportage justement qui a été fait pour aller rencontrer cet athlète-là et rencontrer l'entraîneur aussi, l'entraîneur très ému de la victoire de son athlète. Ne serait-ce que pour ça, ça donne de très beaux moments. Sinon, pour les autres médailles, côté canadien, on a pour l'instant, c'est la natation où on en a récolté le plus. Maggie McNeil qui est repartie avec l'or en natation 100 mètres au papillon pour les femmes. Carly Mass et l'équipe 4 fois relais féminin en natation aussi, 4 fois 100 mètres plutôt, qui ont remporté médaille d'argent la formation et Kylie Mass. Et Penny Oleksiak qui est repartie avec les médailles de bronze pour le 200 mètres libre. Elle a failli remporter hier une médaille de bronze aussi, mais finalement, elle a terminé quatrième. On a quelques quatrièmes positions un peu crève-cœur à notre actif pour l'instant. Il y avait eu également en plongeon, c'était Benfito et sa nouvelle comparse au 10 mètres qui a terminé quatrième pour le saut manqué qui allait rapporter beaucoup de points s'il était réussi, mais malheureusement, ça n'a pas été fructueux. La synchronisation n'était pas très bonne, mais de toute façon, les juges en plongeon, je trouve, depuis le début de ces jeux, sont quand même assez sévères. Des sauts qui, par les commentateurs, en tout cas, donneraient des 8.5, mais que les juges donnent des 6, puis des 6, 7,5. Ils sont sévères, les juges. Donc, presque médaille dans le cas de Megan Menfito qui se reprenait. Je pense que c'est elle, là, je veux pas me tromper, mais petite défaite un peu crève-cœur, elle a terminé quatrième dans son cas. Pour les autres, le 8 de pointe, c'est la médaille qui a été gagnée ce matin. Donc en aviron, l'équipe de 8 femmes qui ont remporté la médaille d'or. Sinon également le 2 de pointe, Kylie Filmer et Hillary Jensens qui a remporté la médaille de bronze un peu plus tôt cette semaine. Au judo, Catherine Beauchemin-Pinard et Jessica Klimkate qui sont reparties avec la médaille de bronze chacune pour le 63 kg, 57 kg respectivement. Maud Charron en haltérophilie qui a remporté une médaille d'or, si on l'a vu, énormément passer également, donc 64 kg. C'est elle qui a établi le record. Au plongeon, je le disais, Jennifer Abel et Mélissa Centrini-Beaulieu au 3 mètres synchro, cette fois-là, qui est repartie avec la médaille d'argent. Et finalement, au baseball, ou softball, plutôt au softball dans ce cas-ci, l'équipe féminine qui a remporté la médaille de bronze. Et mine de rien, jusqu'à date, ce ne sont que des médailles féminines qui ont remporté les 11 premières médailles canadiennes. Ce sont toutes des femmes. Donc, ça va très bien de ce côté-là. Évidemment, l'athlétisme qui débutait, c'est hier, sauf erreur. Donc, on devrait voir entrer en jeu André de Grasse, notamment, qui était un espoir de médaille dans son cas. À suivre, bien évidemment. On espère, on lui souhaite, c'est sûr et certain que ça se passe bien. Mais sinon, l'entièreté des Jeux continue à se dérouler jusqu'au début du mois d'août. Donc encore une semaine et demie et quelques pour les Jeux olympiques du côté de Tokyo. Ça va quand même bien, malgré qu'il y a eu des cas de COVID qui ont été répertoriés. Évidemment, c'était à prévoir, notamment du fait que le Japon est de nouveau confiné, ce qui fait en sorte que les gens pour les Olympiques sont assez surveillés. Hein? Ils ne peuvent pas faire à peu près ce qu'ils veulent. D'ailleurs, précision sur la cérémonie d'ouverture que j'avais abordée la semaine dernière, les gens qui défilaient pour le pays étaient ceux qui avaient des compétitions dans les alentours du stade principal où avait lieu la cérémonie d'ouverture, parce qu'évidemment, il y avait d'autres athlètes. Je disais qu'on avait fait une pige, ou en tout cas qu'on y avait été un peu au hasard pour trouver qui allait représenter le pays, mais finalement, non. On est allé plutôt avec les gens qui étaient à proximité, puisque comme il y a certaines compétitions qui se déroulent à l'extérieur de Tokyo même. Donc, par exemple, on est allé un peu plus au nord pour... je pense que c'est le triathlon, notamment, pour qu'il fasse un petit peu moins chaud lorsque ce soit le moment de faire les compétitions. D'ailleurs, le triathlon qui commençait assez tôt aussi parce qu'on voulait probablement éviter de commencer à, par exemple, un 10 heures le matin et terminer dans la cuisante chaleur à 14-15 heures. Fait qu'on a déplacé certaines compétitions aussi, mais dans le cas de la cérémonie d'ouverture, c'était ceux qui étaient le plus près. Et dans le fond, ceux qui ont déjà terminé leur compétition sont priés de quitter le plus rapidement Tokyo et de retourner dans leur pays. Donc, déjà des médaillés qui ont reçu leur médaille lundi ou mardi doivent être dans l'avion en ce moment pour revenir au Canada. Fait qu'on niaise pas avec la POC, comme on dit, avec une belle expression. Mais sinon, ça veut dire que, en fait, même, ça veut dire que ceux qui compétitionnent seulement la semaine prochaine vont s'envoler pour Tokyo dans les prochains jours. Fait que bonne chance à eux dans ce cas-ci. Voilà pour les Jeux cette semaine. Ça va quand même bien. Donc, 11e et 12e position, dépendamment du classement pour le Canada. Ça va quand même assez bien dans le cas des Jeux d'été. On s'arrête quelques instants. Au retour, on parle de l'actualité de la semaine. Ici même, au deuxième service, sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 80.3. Jusqu'à midi et jusqu'à 18h.
qui me relevait de moi. Te jeter ton pinceau, le plancher est taché, ta teinte préférée, comme le rouge du drapeau qui t'est parti planter sur ce monde nouveau. Il te toujours rappelé, je savais c'était faux. La confiance me guérit, juste pour me rassurer. Après tout, pour le mot, sauf un rire me forcer. C'est ton jeu, c'est toi l'autre, moi j'étais l'étranger. Dans ce grand bungalow qu'on avait décoré, tout ce qu'il faut pour parler, pour s'entendre à nouveau. Un amour rénové, mais jamais retrouvé. Notre table défrichée, manquait un peu d'eau. J'ai échoué trop de fois, trop peu t'écouté. Mais jamais j'aurais pensé.
Retour au deuxième service. Ça coupe un petit peu sec, mais c'est des choses qui arrivent. Nouvelle qui fait un peu sourire, mais en même temps qui... On va dire qui laisse présager qu'il y a des gens qui profitent du système et qui le font bien. C'est notamment le cas de ce texte fonctionnaire du côté de la grande métropole qui est corrompu. Et sa conjointe, qui ne s'était pas présentée en cour la semaine dernière, le jour où leur sentence devait être rendue, ont réussi à arracher un énième rapport lundi cette semaine en prétextant une atteinte à leurs droits fondamentaux. Je n'ai pas d'autre option. La justice doit parfois se presser lentement, a philosophé le juge Christian M. Tremblay, en reportant la cause à nouveau. C'est encore une stratégie pour étirer le temps. Pour ne pas avoir la peine, on vous sort à la peine du chapeau à minuit moins une, a déploré le procureur de la Couronne fédérale, maître Frédéric Carle. À la dernière audience, maître Carle avait dénoncé les stratégies machiavéliques pour gagner du temps des accusés. Des juges ont évoqué les mesures dilatoires du fraudeur dans les dernières années. Il faut dire que le dossier de l'ex-fonctionnaire fédéral et de sa conjointe traîne depuis plus de 7 ans. Oui, 7 ans, mais il manque le mot « an ». Donc, depuis plus de 7 ans devant les tribunaux. Faute de frappe. Les deux fraudeurs devaient finalement recevoir leur peine lundi matin, 2 ans après la fin du procès. Quand même. Monsieur risque une peine de 30 mois de pénitencier pour sa fraude de plusieurs dizaines de milliers de dollars à l'égard d'un programme de subvention pour aînés de Service Canada. Et le couple avait provoqué la colère du juge Christian M. Tremblay la semaine dernière en ne se présentant pas à leur audience sur peine. Donc, il y avait eu un mandat d'arrêt, je me sens te souvenir. L'accusé avait alors prétexté un problème de communication par visioconférence. Son Zoom marchait mal. « Je n'ai pas du tout apprécié votre absence. J'ai fait preuve de clémence », a fermement lancé le juge Tremblay en début d'audience ce lundi. Mais les fraudeurs ont encore réussi à reporter l'inévitable. Monsieur et sa conjointe, qui se représentent seuls, ont fait savoir au juge leur intention de déposer une requête en vertu de la Charte des droits et libertés. Les accusés prétendent que la couronne ne leur a pas divulguer la copie miroir d'un ordinateur saisi par les policiers. Donc, qui leur manquait, semble-t-il, peut-être, une preuve qui aurait peut-être peut-être pu les aider éventuellement. Le fait de ne pas avoir reçu la totalité de la preuve a impacté notre capacité à nous défendre, disent-ils. Nous n'avons pas eu droit à une défense pleine et entière. Or, cette preuve a quand même déjà été divulguée aux accusés il y a des années, parce qu'évidemment, ça fait longtemps que ça traîne. Selon le procureur Maître Carl, le procureur le procureur s'explique d'ailleurs mal pourquoi les accusés ont attendu au moment de rendre le verdict à la dernière minute pour intervenir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le procès a eu lieu, s'est interrogé le juge Tremblay. Néanmoins, le magistrat a décidé d'accorder un mois supplémentaire aux fraudeurs pour produire une requête articulée afin de ne pas placer la cour d'appel dans une situation difficile. Donc, le juge a accordé un mois supplémentaire. Les accusés ont d'ailleurs fait appel du verdict de culpabilité, qui n'a même pas été rendu, c'est un peu étrange. Précisons que les juges se doivent d'être les plus souples à l'égard d'accusés qui décident de se représenter seuls en vertu de la jurisprudence. Le juge Tremblay a bien averti les accusés. Pas question de reporter la cause à nouveau. À la prochaine date, on procède. Vous ne reporterez pas ça ad vitam aeternam, a-t-il tranché. Le dossier a été remis au 5 octobre prochain. Y aura-t-il finalement conclusion? On ne le sait pas. De quoi on les accuse? Pendant des années, le couple a puisé dans un programme de subvention pour aînés de Service Canada. Grâce à des stratagèmes, le fraudeur a profité du fait qu'il traitait lui-même les demandes de subvention du programme Nouveaux Horizons pour aînés. Donc le PNHA du gouvernement fédéral pour ficeler de nombreuses subventions frauduleuses. Avec l'aide de complices, monsieur a mis sur pied des organismes communautaires bidons liés à la communauté tongolaise de Montréal. Il révisait les faux projets de subvention, obtenait des fausses lettres d'appui et des fausses signatures qui autorisaient à donner ces subventions-là. Un administrateur complice encaissait finalement les fonds, partageait l'argent entre les complices. Et ça a marché quand même longtemps. Donc, voilà pour ça. Comme on le dit toujours un peu, le crime ne paie pas. Ils se sont fait pogner. Et dans ce cas-ci, ben, ça n'a pas été particulièrement... Mais en fait, ça a fonctionné longtemps. Mais... ils sont tellement bons fraudeurs qu'ils réussissent à étirer ça. Mais là, le risque que je vois, c'est qu'il y aurait peut-être possibilité de l'arrêt Jordan, vu que ça traîne trop. Mais en même temps, c'est eux autres qui retardent eux autres mêmes. C'est pas les avocats. Fait que, à quel point ils pourraient se servir de cette porte de sortie-là un moment donné pour faire comme « Ah ben là, ça traîne un petit peu trop, là, on pourrait arrêter ça. » On espère que non, hein? C'est sûr et certain qu'il faudrait pas qu'ils réussissent à s'en sortir. En plus, ça serait encore plus ironique. Et sinon, pour rester dans la nouvelle judiciaire, dans les faits divers, on va dire ça comme ça, un motocycliste a été intercepté à 202 km/h lors d'une opération de surveillance mercredi soir à Saint-Étienne-de-Bolton, en Estrie. Le résident de Sherbrooke de 24 ans a reçu un constat de 1838 $ et 24 points d'inaptitude. Plus tôt en après-midi, d'autres automobilistes ont été également arrêtés dans le même secteur. Un homme de 44 ans de Laval a été intercepté à 161 km/h. Lui a reçu un constat de 1238 et 14 points d'aptitude pour grand excès de vitesse. Les deux conducteurs ont perdu leur permis sur le champ pour, évidemment, 7 jours. Leurs véhicules ont été remisés. Dans un communiqué de presse, la SQ a tenu à rappeler que la vitesse est la première cause de collision mortelle à survenir sur les routes du Québec. Ce n'est pas la première fois que les policiers arrêtent des automobilistes au pied lourd dans le secteur de Bolton. Le 23 juillet, il y avait des gens à 170 et 166 km/h sur l'autoroute 10. Comme quoi, les gens n'apprennent jamais, ou en tout cas, s'en permettent un peu trop. Ce qui est arrivé également à la mi-juin, opération nationale pour opération nationale concertée vitesse de la Sûreté du Québec qui battait son plein. Un jeune homme de 19 ans avait été intercepté alors qu'il roulait à 172 sur l'autoroute 610 à Sherbrooke. L'autoroute 610 à Sherbrooke, pour donner une idée, c'est une petite affaire de 5 km qui relie le nord de la ville aux autoroutes principaux. C'est rien. C'est pas une piste de course, littéralement. Donc, à 172 sur le 610, il mériterait de perdre son permis plus que 7 jours. Ça, c'est le cas de le dire. 14 points d'inaptitude, 1388 $. Et sinon, il y a eu également une course de rue, toujours à Sherbrooke. Qu'est-ce qui se passe, Sherbrooke? Qu'est-ce qui se passe? Les deux jeunes conducteurs de 18 et 19 ans au volant de voitures de la même marque et de même modèle circulaient à très haute vitesse l'une de l'autre. Ils se sont suivis sur l'autoroute 10 à partir de la bretelle d'accès de la 410 jusqu'à la 610, encore une fois. Des constats d'infraction de 1550 leur ont été remis. Leur permis de conduire a été suspendu pour une semaine. Leur véhicule remisé pour 7 jours et 12 points d'inaptitude chacun. Les interventions policières sont intensifiées dans cette période-là. La 610 fait très exactement 10,3 km. L'autoroute Louis-Bilodeau qui relie la 10 et la 55. Donc, la route 112 en direction d'Istingus, Stadtford et Lac-Mégantic pour revenir sur l'autoroute 10. Donc, 10 km à 200 km/h, c'est totalement aberrant, mais bon. Au moins, ils sont fait pogner. Ça, c'est un cas de « ils te croisent sur l'autoroute et t'espères qu'il y a une police au bout du chemin ». Dans ce cas-ci, ils sont fait pogner et c'est l'essentiel. Courte pause, au retour, on continue à parler de l'actualité de la semaine sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAQ 88.3. Vous écoutez le deuxième service.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Dans ce grisé
De retour au deuxième service, Requin Chagrin, qu'on vient d'entendre en musique. Rien ne va plus dans le MCU, c'est le cas de le dire, dans le Marvel Cinematic Universe, dans l'univers cinématographique de Marvel, donc l'UCM en français. Scarlett Johansson, j'ai parlé de Black Widow il y a quelques semaines. Son film La Veuve Noire, c'est pas du tout La Veuve Noire, mais on s'entête à vouloir le traduire ainsi dans certains articles. Scarlett Johansson pourrait poursuivre la compagnie Disney en justice pour la décision d'avoir sorti Black Widow sur Disney Plus Premium en même temps que de le sortir au cinéma. La raison, et c'est quand même une assez bonne raison, c'est que dans le contrat de Scarlett Johansson, il y aurait eu une clause qui empêchait Disney de garrocher le film sur la plateforme en même temps qu'au cinéma, qui avait été négociée bien avant que la pandémie arrive. Et pourquoi Scarlett fait ça? C'est qu'il y avait une partie de son salaire qui découlait directement des recettes du box-office au cinéma. Scarlett, qui est l'une des vedettes les mieux payées d'Hollywood, avait droit à un certain pourcentage des recettes récoltées par le film, selon la plainte qui a été déposée au tribunal de Los Angeles. Mais en mettant le film sur la plateforme de Disney Plus Premium, ça faisait en sorte que des gens ne se déplaçaient pas au cinéma, payaient le 35$ une fois par mois et écoutaient à volonté Black Widow le jour de sa sortie, Lucas quelques semaines avant que ça sorte, Cruella avec Emma Stone la journée que c'est sorti, etc., etc. Donc, il n'y avait pas d'argent qui allait directement à Black Widow lorsqu'on achetait l'accès premium. Évidemment, c'est un service de streaming, donc on ne donne pas nécessairement notre argent à ce que l'on regarde, mais plutôt à la maison mère, on va dire ça comme ça. La sortie de Black Widow sur grand écran prévue l'an dernier avait été repoussée plusieurs fois à cause de la pandémie de COVID-19. Le film a finalement sorti en juillet cette année et en simultané sur Disney+. Les spécialistes des succès de salle considèrent que les chiffres sont décevants selon les standards de Marvel, mais quand même acceptable du fait qu'on est au sorti d'une pandémie. C'est sûr que pour un film Marvel en temps normal avant la pandémie, s'il était sorti aussi 6 mois après la fin des Avengers Endgame, il y aurait eu un buzz instantané. C'est sûr, les gens se seraient garochés pour aller voir le film. Ça, je le disais aussi il y a quelques semaines. Si le film était sorti comme prévu en mars-avril 2019... Je pense que c'était même avril 2019, mai. Si c'était à cette date-là, 2020, oui, à la sortie originale, il y aurait eu un plus gros buzz, ça c'est sûr et certain. Mais de l'avoir repoussé, le buzz est parti. Et en plus de l'avoir mis en ligne, c'est sûr que ça l'a affecté. C'est sûr que ça a affecté le box-office de Black Widow final. La diffusion, plutôt, ce n'est pas un secret pour personne. Disney sort des films comme Black Widow directement sur Disney+, pour attirer plus d'abonnés sur Disney+. Invoque la COVID, évidemment, comme prétexte pour justement permettre aux gens d'aller voir les films quand même. On pense à Mulan en live action, en acteur réel, qui a bien fait d'être sur Disney+, parce que semble-t-il, c'était pas si bon que ça. Dans le cas de Black Widow, évidemment, la sortie au cinéma aurait été profitable pour Scarlett. Sûrement pas la dernière fois que des talents d'Hollywood tiennent tête à Disney et indiquent clairement que quoi que la compagnie puisse prétendre, elle a l'obligation légale d'honorer ses contrats. C'est pas complètement fou, a déclaré l'avocat de Scarlett Johansson, John Belinsky, dans un communiqué à l'agence France Presse. Disney, qui possède maintenant les studios de Marvel, aurait attaqué ne pas avoir violé le contrat et a balayé les poursuites du revers de la main. De toute façon, Disney qui décide d'accepter d'aller en duel en cours de justice, c'est pas ça qui va faire le plus de mal à leur cas. La plainte est particulièrement triste et éprouvante parce qu'elle ignore l'impact mondial horrible et prolongé de la pandémie, a dit le groupe Disney dans un communiqué. Donc, finalement, c'est Scarlett la méchante. Parce que il y a une pandémie. Ce n'est pas le temps de parler d'argent. Le studio rival de Disney, Warner Bros., a été critiqué l'an dernier pour avoir pris une décision similaire en sortant, ou plutôt en voulant sortir ses films en simultané au cinéma et en diffusion continue. L'entreprise avait tenté de renégocier beaucoup de contrats avec ses vedettes et les réalisateurs et réalisatrices qui auraient versé plus de 200 millions de dollars pour compenser le manque à gagner dans les recettes engagées par les films en salle. Excusez-moi. Il y avait eu, entre autres, La Matrice 4 et Dune qui devaient être offerts sur HBO Max en parallèle des sorties en cinéma éventuellement en 2021. Dans le cas de Dune, il y a eu beaucoup de colère, notamment de Denis Villeneuve lui-même, le réalisateur, en disant « Mais non, c'est un film qui est fait pour être au cinéma, pour être vu en IMAX. C'est un film qui est fait pour être vu sur grand écran. Vous me sacrerez pas ça sur un téléphone cellulaire. C'est pas vrai. » Denis Villeneuve a eu gain de cause là-dessus. Dune sortira au cinéma dans un premier temps. Je ne pense pas que HBO Max va le recevoir lorsqu'il va sortir également au cinéma. La date prévue pour l'instant est au 1er octobre 2021. Sera-t-il encore au 1er octobre? On l'espère. On espère que le variant Delta ne frappe pas trop fort. Ou en tout cas, de frappe de manière modérée et qui ne fermera pas tout encore. Mais quand même, donc, Denis Villeneuve qui signait l'adaptation de Dune et qui met en vedette notamment Timothée Calmette, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac et David Bautista, pour voir les noms rapidement sur la liste que j'ai devant moi. À suivre dans le cas de Dune. On s'arrête à nouveau quelques instants. On va aller entendre Antoine Corriveau avec quelqu'un. Je déparle aujourd'hui. Je m'en excuse. Courte pause musicale. Au retour, la conclusion de l'émission. Antoine Corriveau, tout de suite en musique.
Je n'ai jamais été quelqu'un d'entre les visages venus des profondeurs de la raison, du calme et de la crevaison, de la ferraille dans le fossé. C'est là que tu m'avais trouvé, le corps pesant, la tête blanche. J'étais arrivé en avance. Je n'ai jamais été quelqu'un qu'on ramassait dans le ruisseau. Quelqu'un à l'étalage parvenu, sans échymose à l'avant-garde, avant le retour des outardes. Aux funérailles de ma mère, tu as allumé la lumière sur ma main aux veines tendues. J'étais déjà revenu, mais jamais été quelqu'un. Quelle ombre sur son dos, un champ de brûlé l'or des bleus, qui te relève en plein milieu, le réfugié qui dans tes bras a menti pour arriver là, puis gagner un peu de terrain, t'es défiguré. We'll be right back.
Il me dit de Vanille qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Deux petites nouvelles en terminant l'émission cette semaine. Une qui a fait tout un petit peu sourire quand même. Québécois a finalement échoué dans sa tentative de faire invalider deux décisions du CRTC qui l'avaient obligé à fournir le signal à TVA Sport aux abonnés de Bell durant les séries éliminatoires de 2019. Souvenez-vous, il y a déjà 2 ans de ça, pendant les séries, Bell et Québécois étaient en renégociation de contrat, donc les droits qui se donnaient entre eux pour la diffusion des chaînes respectives. Groupe TVA avait retiré le signal de TVA Sport aux abonnés de Bell, donc le moyen de voir le match en version française, ou du moins avec les commentateurs français. Bon, ça reste que c'est TVA Sport, mais quand même, c'était le moyen d'avoir les images avec des commentateurs français. Le soir du 10 avril 2019, donc lorsqu'on se branchait pour un abonné Bell sur la chaîne de TVA Sport, il y avait un écriteau, difficulté technique. Votre fournisseur nous fait la vie dure, que Québécois écrivait. Évidemment, pour remédier, entre guillemets, à la situation, Bell avait débloqué le signal de Sports Network. Donc, les amateurs pouvaient quand même regarder les matchs suite aux caprices de Québécois, il faut le dire. Groupe TVA reprochait à Bell de donner un service préférentiel à sa propre chaîne spécialisée de sport, donc RDS, et de lui verser des redevances insuffisantes. Donc, semble-t-il que Bell Media donnait plus d'argent à RDS, au prorata, qu'à TVA Sport, parce que TVA Sport fait plus de codes d'écoute, entre guillemets, mais seulement pendant la période des séries, justement. Parce qu'une fois que le hockey est terminé, TVA Sport pogne le bar un petit peu. Dans une décision signée par le juge Richard Boivin, le banc des 3 juges de la Cour fédérale a rejeté l'appel logé par Groupe TVA et Québécois Média. TVA avait reçu plusieurs plaintes au CRTC en février 2019, accusant Bell d'accorder un traitement de préférence à RDS et avait aussi déposé un recours en dommages et intérêts devant la Cour supérieure du Québec pour les mêmes raisons. Une médiation du CRTC n'avait rien donné et le jour même où TVA devait couper le signal, Bell avait demandé l'arbitrage au CRTC afin que ce dernier statue sur les tarifs applicables pour le signal de TVA Sport. Donc, que les redevances soient mieux ou en tout cas soient bien réglementées et qu'une instance au-dessus de TVA et Bell décide « voici le montant que vous devriez fournir ». Et non pas voici ce que TVA veut, voici ce que Bell veut donner et arrangez-vous avec ça. Donc, tu sais, ils voulaient régler ça pour le mieux. Et évidemment, ben, comme les séries allaient débuter, ils voulaient pas que les clients de Bell soient défavorisés. Malgré tout, le signal avait été interrompu le soir du 10 avril et dès le lendemain, Bell avait déposé une demande d'injonction provisoire. Et le surlendemain, soit le 12 avril, la Cour supérieure du Québec ordonnait à TVA de rétablir le signal. Donc, qui arrête de brouiller le poste entre 20h et 22h, à rétablir le signal, une décision dans laquelle TVA s'est aussitôt conformée. Donc, au moins ça, ils ont été... Ben, ils n'auraient pas dû le faire à la base, mais au moins, ils ont réglé la situation après. 2 jours avant que TVA ne pose ce geste, le CRTC avait reconnu le différend entre les parties et avait déterminé que la règle du statu quo prévue à ces règlements devait s'appliquer. Donc, pour l'instant, on laissait les négociations sur la glace, mais qu'on n'écœurait pas les abonnés d'un ou l'autre des services parce que les boss, eux autres, se chicanent entre eux autres. Cette règle prévoit qu'en cas de mésentente, le statu quo est maintenu jusqu'à résolution du conflit, c'est-à-dire que TVA devait continuer à fournir le signal de TVA Sport aux clients de Bell jusqu'à ce qu'une entente intervienne entre les deux. Et TVA avait fait fi de cet avertissement en retirant le signal pendant ces 2 journées-là. Se prononçant sur le fond du litige, le 18 avril suivant, le CRTC avait jugé que TVA avait contrevenu à sa réglementation en retirant le signal aux abonnés de Bell et avait ordonné d'une part le maintien du service jusqu'à ce qu'une entente intervienne et d'autre part avait ordonné la suspension de la licence de radiodiffusion de TVA Sports. Celui-ci retirait à nouveau son signal pendant le différend. Donc, avait menacé TVA Sports de « là, si vous refaites ça, il va y avoir des conséquences ». Évidemment, Groupe TVA et Québécois étaient bien fâchés de ça, avaient porté en décision, en appel, alléguant que le CRTC avait outrepassé ses pouvoirs, donc de menacer TVA et Québécois, ça ne se faisait pas. Ils alléguaient que le CRTC n'avait pas l'autorité pour rendre une décision qui peut avoir un impact sur les aspects économiques. Selon leur prétention, le pouvoir réglementaire du CRTC doit demeurer essentiellement dans l'arène culturel et non pas économique. Il reprochait à l'organisme réglementaire de s'immiscer dans une entente contractuelle. Donc, laissez faire le CRTC, on va s'organiser entre nous autres. Dans la décision, finalement, le juge Boivin rappelle que les lois sur la radiodiffusion donnent effectivement de plus larges pouvoirs au CRTC qui veulent l'accepter. Il note que la loi indique clairement que le législateur a octroyé au CRTC le pouvoir d'établir des règlements afin d'intervenir dans un différend concernant la fourniture de programmation entre une entreprise de programmation et une entreprise de distribution. Donc, le CRTC avait le droit de dire à TVA Sports « Tu diffuses sur toutes les plateformes qui te retransmettent. Tu n'as pas le droit de bloquer le signal. C'est pas vrai. » Le magistrat fait également un retour historique pour rappeler que le gouvernement fédéral a senti le besoin d'établir des cadres lorsqu'il a permis l'intégration verticale sans restriction. Ce faisant, il a permis à une même entreprise de détenir soit la propriété ou le contrôle de services de programmation et de distribution. Bon, en donnant... Donc, ils ont été reconnus à tort. Ils ont dit à Québécois, vous faites pas ça, vous avez pas le droit. Et eux, fâchés, ont dit, non, on va faire ce qu'on veut. Mais finalement, un juge a tranché, il a dit, non, vous faites pas ce que vous voulez. Donc, voilà, ça se conclut comme ça. Bonne chose dans ce cas-ci, parce que si ça commence, il y a un différend avec TELUS, bon, on va vous tirer la plug sur trois postes si vous nous laissez pas faire. Ça commence, tu sais, des petites menaces comme ça en vue de négocier quelque chose. C'est jamais idéal, mais bon, au moins, là, ça a été reconnu comme étant vous n'avez pas le droit de faire ça, faites-le pas. Donc, voilà l'essentiel de ce qui s'est passé. Sinon, nouvelle qui a été quand même assez importante, mais qu'on n'a pas beaucoup entendu parler malgré tout. Retrait des troupes américaines d'Afghanistan d'ici le 31 août. Le président Joe Biden a confirmé en début du mois de juillet, mais le sort de milliers d'Afghans qui ont aidé les Américains sur le terrain n'était pas encore scellé. Les États-Unis ont promis l'asile aux collaborateurs afghans qu'ils ont eus sur le terrain, dont les interprètes. Mais le processus administratif s'étire et pourrait ne pas être complété avant la fin du retrait américain. Donc, ce ne sont pas tous les interprètes qui réussiraient à revenir avec l'armée américaine. Donc, il y en aurait qui seraient peut-être en danger d'avoir aidé les Américains en plus. Donc, c'était surtout ça, l'espèce de gros débat, devrait-on aider à donner l'asile aux interprètes et à ceux qui ont aidé pendant le conflit armé. De notre côté, côté canadien, la question s'est également posée, puisque ça fait un petit peu plus longtemps que les soldats canadiens sont plus là, mais quand même, il y a des délais qui étaient beaucoup trop longs pour que ces interprètes-là qui ont aidé les soldats canadiens à revenir dans le pays pour justement essayer de s'en sortir, parce que s'ils restent en Afghanistan, ça pourrait être difficile et compliqué pour eux. La vice-première ministre Chrystia Freeland a répondu jeudi cette semaine aux critiques dans le dossier des interprètes afghans qui se butent à un processus trop long et trop compliqué pour trouver refuge au pays. Freeland a assuré que l'objectif du gouvernement est de les faire venir le plus rapidement possible, eux et leurs proches, puisqu'ils sont ciblés par les talibans et qu'ils sont en danger en ce moment. Beaucoup d'entre eux ont travaillé avec les forces armées canadiennes durant la mission en Afghanistan, mais les délais de 72 heures pour soumettre les documents nécessaires à leur accueil au Canada est difficile à respecter, même si ça a été assoupli. Il faut fournir jusqu'à 10 numérisations de documents différents pour déposer une demande et utiliser Adobe. Les services Internet particulièrement inégaux en Afghanistan rendent la chose difficile. Ce qui est un peu comprenable, puis en plus d'avoir un ordinateur assez à jour, ça peut être aussi compliqué dans certains cas. De nombreux anciens combattants qui ont collaboré avec les interprètes afghans ont manifesté leur mécontentement par rapport à cette situation. Ils s'interrogent aussi sur les restrictions liées à l'accueil des Afghans qui ont travaillé pour les forces ou l'ambassade du Canada. Il n'y aurait que leur famille immédiate, soit conjoint et enfants, qui seraient admis au Canada, alors que les talibans menacent à peu près toute la famille au grand complet. Fait que les grands-parents, ben en fait les parents des interprètes, les cousins et cousines, ça va rapidement, ça monte rapidement. D'après Mme Freeland, le gouvernement du Canada n'essaie pas de restreindre les droits des Afghans. Ce sur quoi nous nous concentrons vraiment, elle dit, c'est de nous assurer que la logistique fonctionne et que ces braves gens aient la chance de venir au Canada. Je suis sûr qu'ils le feront de grands Canadiens. Nous sommes très, très reconnaissants pour leur travail, pour votre travail, et nous reconnaissons absolument la responsabilité que nous avons envers vous et vos familles. Mais les mesures qui ont été annoncées demeurent peu détaillées et nourrissent des inquiétudes à la fois chez les interprètes que les anciens combattants qui ont collaboré avec eux. Parce qu'évidemment, la bureaucratie, on le sait, c'est jamais facile quand ça pourrait être tellement simple. Mais dans ce cas-ci, on espère que ça va se faire assez rapidement. Ottawa offre l'asile aux Afghanistans qui ont aidé au Canada. Mais faut que vous ayez accès à Adobe et envoyer des PDF au Canada dans un temps donné, sinon c'est trop long. Comme quoi, hein, des fois, les travails de bureau, des fois, ça peut être un petit peu n'importe quoi. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, en espérant qu'il y en ait la plupart, ou en tout cas l'essentiel, qui puisse revenir ici et qui puisse être protégés d'une certaine manière, parce que c'est de l'asile politique au final, là. C'est qu'ils sont en danger s'ils restent dans leur pays pour avoir aidé l'ennemi, entre guillemets, et avec la remontée justement des mouvements armés, des mouvements des talibans, ça donnera pas cher pour eux s'ils restent là trop longtemps. Donc, en espérant que ça aille bien pour eux, qu'ils réussissent à quitter et à venir s'installer au Canada. Pour justement service rendu, ne serait-ce. Même chose aux États-Unis, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais en tout cas, c'est pas la même bureaucratie, mais ça s'enligne pour être compliqué. Donc, bonne chance à eux, c'est le cas de le dire. Et c'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service, ici même sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et de CFAC 88.3 à Sherbrooke. À la semaine prochaine. Salut!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Saviez-vous que rap, ça veut dire rythme et poésie?
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3 le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix.
C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
Cet été, Chiz 94.3 redevient baseball et on vous présente les matchs locaux de l'équipe Québec sur les ondes FM. La formation qui regroupe des